Voilà enfin une parabole, frères et sœurs, qui semble claire. Les mauvais riches en enfer et les bons pauvres au paradis. Je pourrais aller m'asseoir maintenant et on garderait ce message à méditer pour la journée, mais je crains que ce serait aller un peu trop vite en besogne. D'ailleurs, la parabole ne dit pas que le riche est mauvais. J'ai trouvé ce titre-là, la parabole du mauvais riche, dans une vieille édition de la Bible Second. Elle ne dit pas non plus que le pauvre a des qualités morales et spirituelles qui le mettent en valeur. Je ne crois pas non plus, bien qu'il y ait un effet un petit peu trompeur, je ne crois pas non plus que la parabole ait pour intention de nous livrer les plans de l'au-delà, avec d'un côté la fournaise ardente et de l'autre côté le jardin des délices. Les évidences sont quelquefois trompeuses. Je crois, au contraire, et je vais essayer de le montrer, je crois au contraire que la parabole nous adresse une interpellation solennelle, un message d'urgence. Et nous allons voir cet appel concerne bien plus notre vie ici-bas que notre au-delà. Vous l'avez vu, la parabole met en scène deux personnages. Deux personnages que tout oppose, le riche et Lazare. J'insiste, il n'est pas question de mauvais riche ou de méchant riche. La parabole, une fois encore, n'encourage pas à une lecture moralisante ou spontanément moralisante. Elle nous raconte l'histoire d'un riche qui adore faire la fête et d'un mendiant malade. Jésus n'a jamais interdit de faire la fête, se réjouir autour d'une bonne bouteille de Bordeaux n'est pas un péché. Tu es le vin de nos festins, Cathy, hein, c'est ce que tu as prié tout à l'heure. Il transformera même un jour à Cana l'eau en vin pour que la fête soit totale. Alors vous savez, les Libanais pensent que Cana est au Liban, les Israéliens pensent que c'est en Israël, c'est de Cana. Et le vin libanais peut être pas mal aussi. Ça, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, où ça s'est passé. Et puis, je pense aussi au père de la parabole, vous vous souvenez, celle qu'on a méditée il y a quelques dimanches, le père du fils prodigue, qui organise une fête monstre pour célébrer le retour de son fils avec de beaux habits, un veau gras, rien n'est dit sur le vin, mais bon, on peut l'ajouter sans hésiter. Le problème du riche n'est donc pas dans sa richesse. Pour lui, la vie tout entière s'est réduite à une seule chose, la fête. La fête, pour lui, n'est justement plus une célébration. La fête n'est plus cet événement extraordinaire qu'on prépare, auquel on pense et pour lequel on se réjouit à l'avance. La fête est devenue une règle de vie, une obligation. La fête, c'est une sorte de soumission qui impose sa loi, sa dictature dans la vie de cet homme. Vous sentez la différence? Ce que Jésus dénonce ici, c'est que un plaisir, une passion, une idée, un travail, une relation, que sais-je encore, il dénonce que cela puisse devenir notre unique raison de vivre. Et que cela puisse prendre les commandes de notre existence. Pour le dire autrement, ce qui est condamnable, ce n'est pas qu'il y ait de temps en temps des samedis soirs, on est sur un campus universitaire, des jeudis soirs, mais que le samedi soir devienne le but de tous les autres jours de la semaine. C'est ça qui est condamnable. Vous sentez la différence? Cette réduction monomaniaque de l'existence a eu un effet sur la vie du riche, elle l'a déshumanisé. Au point, ça c'est pas un hasard dans le récit, au point qu'on ne sait même plus comment il s'appelle. Vous avez noté? C'est le riche. Le pauvre, lui, le mendiant, lui, il a un nom. Un beau nom. Lazare. Ça vient de l'hébreu Eléazar ou Eliezer. Ça veut dire « Mon aide vient de Dieu ». Autant l'identité du riche, elle s'est réduite à la possession pour soi. Autant l'identité du pauvre se tient tout entière dans la dépendance de Dieu et des autres. On a d'un côté un homme aux mains pleines et au cœur vide, et de l'autre, un homme aux mains vides et au cœur plein. Et puis, la mort passe par là. Lazare est aussitôt emporté par les anges auprès d'Abraham, et le riche est enseveli. Le premier est donc porté, et l'autre est enterré. Il y a un mouvement là, vertical, inverse aussi. Hein. Tout est comme ça organisé dans la narration, dans les opposés. Au séjour des morts, les situations donc, sont donc inversées. Lazare est au frais, auprès d'Abraham, et le riche grille à petit feu, complètement seul. Et un dialogue s'ouvre alors entre le riche et Abraham. Mais vous l'avez perçu sûrement, un dialogue un peu désespérant. Un dialogue sans issue. Tout ce que demande le riche est refusé. Il n'y a pas de passage possible. Tout est fermé. La vie au séjour des morts est finalement, c'est la première observation, elle est à l'image de la vie sur la terre. La vie que nous avons construite ici-bas. Le riche n'a jamais rencontré Lazare ici-bas. Il ne le rencontrera pas davantage dans l'au-delà. Et c'est ici, je crois, que se trouve l'enseignement, la pointe, l'enseignement majeur de cette parabole. Elle attire l'attention sur le tragique de l'existence. Tout au long de sa vie, le riche n'a jamais vu le pauvre, pourtant couché en travers de sa route. Et ses yeux s'ouvrent maintenant que lui-même expérimente le dénuement, le besoin de l'autre, la pauvreté, la souffrance. Notre riche se met à exister au travers du manque et du besoin. Mais alors qu'il ressent pour la première fois de sa vie le besoin de l'autre, il est mort. C'est tragique. Cette tragédie a évidemment pour but de nous alerter, nous, les vivants, sur les enjeux de notre présent, de nos choix de vie. Attention, nous dit la parabole, attention, un jour, tout va s'arrêter. Ce jour où le seul avenir sera d'être celui qu'on a toujours été. Ce jour à compter duquel on ne pourra plus être qu'au passé. Le jour où il n'y aura plus d'autre avenir qu'hier. Où l'on sera condamné à être pour toujours celui qu'on avait choisi d'être. C'est ça la mort. C'est ce qui est figé, ce qui est définitif, ce qui est irréversible. Et Jésus se fait pour nous, vous l'entendez, sœurs et frères, ce matin, lanceur d'alerte. Il existe des vivants qui vivent comme des morts. Des morts vivants. Ils sont figés dans leur petit moi solitaire, insensibles à autre chose qu'à leurs propres besoins, égocentrés, insatiables, comme pétrifiés dans un comportement définitif et immobile. Oui, ici, la parabole met en scène un festin, mais l'avertissement dénonce bien d'autres enfermements, tous les enfermements possibles. Ceux de la pensée, ceux de la vie religieuse. Tous, sans exception, sont en ligne de mire de cette parabole. Qu'es-tu en train de faire de ta vie ? Ma sœur, mon frère, voilà l'interpellation du Christ pour nous ce matin. Qu'as-tu fait de ce beau nom que tu as reçu à la naissance ? Ce nom qui disait, en espérance, la noblesse de ta vocation de vie, de ta vocation à la vie, la beauté de l'appel de Dieu pour toi qui résonne dans le regard de tes parents qui te nomment au premier jour de ton existence. Voilà, oui, les grandes questions. Peut-être as-tu perdu de vue cette vocation à la vie. Vous avez vu où Lazare est emporté. Il est emporté sur le sein d'Abraham, nous dit le texte. Pourquoi Abraham ? Alors, il y a une explication classique qui d'ailleurs est tout à fait juste. Hein. Il faudrait là consulter les spécialistes, surtout de la tradition juive, de lecture du Premier Testament. Mais elle dit cette explication que chez les Juifs, c'est habituel, on ne nomme jamais Dieu, et donc on utilise des figures de substitution, vous voyez, pour dire que Dieu est là. Et on va se servir dans les grandes figures de l'Ancien Testament, l'épisode de la transfiguration du Christ en propose un autre genre, mais on a Moïse, Élie, Abraham, voilà. Mais il y a, à mon sens, dans la présence d'Abraham, quelque chose de plus qu'une coutume religieuse ou d'écriture. Je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Abraham, pensons-y deux minutes, c'est la figure par excellence, la figure biblique de l'abandon. Souvenez-vous, cet homme qui a quitté sa terre et sa situation d'éleveur prospère pour suivre un appel, l'appel de Dieu. Souvenez-vous, Abraham qui est devenu ce père appelé à sacrifier ce qu'il a de plus cher, son fils. Abraham est en somme le contre-modèle du riche de la parabole. Son aide vient de Dieu. Abraham et Lazare, même combat. Il nous est demandé de rejoindre le monde d'Abraham et de Lazare, de les reconnaître comme nos frères, comme nos modèles, c'est-à-dire de quitter le monde du riche pour naître aujourd'hui à une expérience très rare, très particulière, celle du manque et de l'abandon. Nous sommes appelés de manière très directe par Jésus à repenser ce qui structure et ce qui construit nos existences. De quels matériaux sommes-nous faits ? Sur quoi ça tient tout ça ? Qu'est-ce qui est au fondement de notre existence ? Qu'est-ce qui guide mes choix quotidiens ? Finalement, la question est simple. Sommes-nous des êtres possédants ou des êtres en manque de Dieu et des autres? Est-ce que notre vision de la vie nous lance dans cette course sans fin à l'accumulation de pouvoir, de savoir et d'avoir? Ou entendons-nous au contraire l'appel de Dieu à vivre cette expérience rare et fondatrice de l'abandon? Vous le voyez, frères et sœurs, cette scène entre tout en bas le séjour des morts et tout en haut le sein d'Abraham nous ramène au milieu. Ici, sur la terre, on nous vit maintenant. Elle nous ramène à nos enjeux, à nos questions. Qu'est-ce qui est au cœur de nos existences aujourd'hui? De quoi sommes-nous riches? Sommes-nous riches de la rencontre avec Dieu et avec notre prochain? Ou au contraire, sommes-nous riches de l'illusion d'un accomplissement de soi par l'assouvissement immédiat de besoins dictés par une société de consommation devenue complètement folle? De quoi sommes-nous riches? C'est maintenant qu'il faut goûter au rafraîchissement de la rencontre avec Dieu. Pas demain. Demain, il peut être trop tard. C'est maintenant que le Christ nous appelle à construire nos vies dans la seule dépendance de la grâce et de l'ouverture aux autres. La parabole du riche et de Lazare est une parabole de l'urgence. J'ai essayé de le traduire un peu ce matin. Christ nous y appelle à changer de vie pour venir à la rencontre de Dieu, à la rencontre de notre prochain, et de trouver là notre source de joie et notre salut et la paix de notre âme.